que l'on fait en méditation pour les personnes qui viennent
pour la première fois.
Om Palden Sawe Lama Rinpoche Dagi Che Ur Pemme Den Chula Kamjin Chen Te Gune Jesun Te Kusun Chung Kin Ju Sel Tu Se Sangye Che Lam So Gi Cho Nam Ra Jong Chung Pa Du Da Ni Kyam Su Chi Da Gi Jin So Gi Pe Se Nam Gi Cho La Ben Che Sangye Jum Pa Shu Sangye Che Dong Sogi chonam la Jong chung padu dani kyam suchi Dagi jin sogi pe senam gi Jola ven si songye Rumbai shu songye chedong Sogi chonam la Jong chung pa du da ni kyam su chi Da gin jin su gi pe se nam gi Jo la pen si sang ge rum pa shu.
Alors pendant quelques instants, on prend soin de... Bonsoir. On prend soin de sa posture. On essaie d'avoir une posture correcte pour méditer. Avec pour point principal de la posture, c'est une colonne vertébrale droite. Donc on ne médite pas en ayant l'abdomen coupé. On essaie d'avoir une colonne vertébrale droite. Si on médite sur une chaise, on évite de s'adosser. Et pour garder une colonne vertébrale droite, vous pensez qu'avec la tête, vous poussez le plafond. Et de temps en temps, vous revenez à cette image pour replacer le corps. Ensuite, on médite les yeux ouverts. Le menton forme un angle droit avec le cou. On dégage légèrement les épaules en arrière. Donc les mains peuvent être posées sur les genoux ou dans le mudra de la méditation avec les poignets qui reposent au niveau des aines. Et on bascule le bassin à l'avant. Tout cela, ce sont des mouvements du corps qui vont maintenir la colonne vertébrale droite. Et essayez dans cette posture de sentir une stabilité, une impression d'être dans votre axe. Pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, essayez de demeurer simplement dans l'aspect connaissance de l'esprit, c'est-à-dire dans la conscience qui reconnaît ce qui s'élève, ce qui traverse l'esprit. Sans craindre quoi que ce soit, sans rejeter quoi que ce soit, mais sans suivre non plus quoi que ce soit. Tout peut s'élever en termes de pensée, en termes de facteurs mentaux, en termes de sensations et de perceptions. Tout, absolument tout. Donc être conscient de ce mouvement, de reconnaître que ce n'est que du mouvement, que cela apparaît, mais ça traverse l'esprit et cela disparaît. Et lorsque vous retenez ce mouvement, lorsque vous fixez ou solidifiez une pensée par exemple, observez que cette fixation ou solidification de la pensée, ce qu'on appelle la saisie, eh bien ça fait naître immédiatement une perturbation dans l'esprit. Et comme antidote à cette saisie, rappelez-vous que ce qui s'élève est totalement impermanent. Ça apparaît, ça traverse l'esprit et cela disparaît. Ça n'a pas le pouvoir de demeurer, de rester. Et que c'est totalement dépourvu d'existence propre, puisque il y a tout un ensemble de facteurs, de causes, de conditions qui permettent à cet élément d'apparaître dans l'esprit. Donc, ce qui apparaît n'a pas d'existence en soi ou par soi. Pour les personnes qui débutent depuis peu, qui méditent depuis peu de temps ou qui découvrent la méditation, je rappelle les quatre points de la méditation que l'on appelle le calme mental ou shiné en tibétain, que l'on peut traduire également par l'entraînement à la non-distraction. Ces quatre points sont, premièrement, nous plaçons notre esprit sur un support tel que la respiration. Prendre la respiration pour support, cela veut dire je suis conscient que j'inspire, conscient que j'expire, sans modifier le rythme respiratoire. Deuxième point, lorsque nous sommes conscients du rythme respiratoire, il y a une partie de notre esprit, une partie de notre conscience qui doit veiller, qui est la vigilance et qui nous permet de savoir si nous sommes bien conscients du rythme respiratoire tout en étant conscients des pensées, des facteurs mentaux, des perceptions et des sensations. Si nous restons conscients du support, c'est-à-dire du rythme respiratoire, il n'y a pas distraction. Et c'est la vigilance qui nous permet de savoir si nous sommes distraits ou pas. Nous sommes distraits lorsque nous perdons conscience du support de méditation. Lorsque par cette vigilance nous prenons conscience de la distraction, troisième point, nous identifions ce qui est en train de nous distraire. Donc nous savons que c'est une pensée, une sensation, une perception ou un facteur mental. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur ce qui s'élève, d'analyser ce qui s'élève. Simplement, on sait que mon esprit est distrait par une pensée, par exemple. Et je lâche cette pensée. La lâcher ne veut pas dire vouloir qu'elle disparaisse, faire en sorte qu'elle disparaisse. Au contraire, la lâcher veut dire ne plus lui porter l'attention que je lui portais. Et par cela, cette pensée, eh bien, va traverser et disparaître. Donc tout ceci doit se faire dans une grande détente intérieure, mais une grande lucidité, une pleine conscience. Et quand j'ai lâché cet objet, alors quatrième point, je replace mon attention, mon esprit, sur le support, c'est-à-dire le rythme respiratoire. Et j'applique ces quatre points pendant toute la session. Et si pendant la session, je sens que mon esprit, par cet entraînement, se tend, se fatigue, eh bien j'alterne entre des moments d'application de ces quatre points et des moments de détente où je laisse l'esprit faire ce qu'il veut. Et j'alterne de façon à ne pas fatiguer l'esprit. Alors, quand on commence l'apprentissage de la méditation, on commence par appliquer les quatre points qu'on avait revus tout à l'heure. Ce type de méditation s'appelle en tibétain shiné. C'est ce qu'on traduit par le calme mental. Shiné, si veut dire apaiser, né veut dire stabiliser la paix de l'esprit. Et le point principal dans cette méditation, c'est la non-distraction. Donc ça ne veut pas dire que la stabilité, la stabilité de l'esprit ou le calme de l'esprit va se stabiliser parce qu'il n'y a plus de mouvement, parce qu'il n'y a plus de pensées ou de facteurs mentaux qui s'élèvent dans l'esprit. On continuera à avoir des pensées, on continuera à avoir des facteurs mentaux, des sensations, des perceptions, mais nous ne serons plus perturbés, ou notre esprit ne sera plus perturbé par ces éléments qui s'élèvent et traversent l'esprit. Quelques mots sur cette méditation, puisqu'il y a des personnes nouvelles. Il y a en Occident deux principales définitions qu'on donne de la méditation qui sont complètement erronées, à savoir que on dit on médite pour ne plus avoir de pensée. C'est totalement impossible. Si vous y arrivez, écrivez vite un bouquin. Mais vraiment, c'est impossible parce que la conscience mentale, tant qu'elle fonctionne, eh bien, nous aurons des pensées. Donc on ne cherche pas à ne pas avoir de pensée quand on médite. Et puis la deuxième erreur qu'on entend souvent, c'est méditer consiste à faire le vide. Alors l'esprit n'est pas à vider comme on vide la poubelle le soir. Hein, c'est impossible de vider son esprit, de vider quoi que ce soit. Donc il n'y a pas à faire le vide non plus. Et ça, il faut que ce soit bien clair pour toute personne qui désire méditer. Méditer, c'est prendre conscience. Comme disait Ajahn Chah, dans la première phrase du premier chapitre de l'ouvrage dans lequel on est, il dit méditer, ça permet d'être présent et de prendre conscience, et d'être conscient. Être conscient de quoi ? Être conscient du fonctionnement de l'esprit. Comment l'esprit fonctionne ? Et voir que par le fonctionnement de l'esprit, notre esprit peut être heureux ou peut être dans une expérience douloureuse. Et ça rejoint le fondement du bouddhisme. Le bouddhisme a pour but de se libérer de la souffrance, pour soi et pour les autres. Et il n'y a pas d'autre but dans cette voie spirituelle qu'on appelle le bouddhisme. En d'autres termes, les personnes nouvelles, si vous êtes là ce soir pour chercher qui a créé le monde, est-ce qu'il y a un créateur ou pas, comment tout cela a commencé, c'est mal parti. Parce que le bouddhisme ne répond pas à ces questions-là. Le Bouddha n'a pas dit qu'il n'y avait pas de créateur ou qu'il y en avait un. Il n'a rien dit sur le sujet. Pour le Bouddha, ce n'était pas une question primordiale, essentielle. C'est peut-être intéressant comme question, mais pour le Bouddha, ce n'était pas essentiel. Parce que cette question-là ne résout pas l'expérience de la souffrance que l'on peut faire. Pour le Bouddha, ce qui était important, c'était que vit mon esprit aujourd'hui ? Est-ce que mon esprit, alors que je cherche à être heureux, que tous les êtres aspirent au bonheur, est-ce que mon esprit est totalement heureux, quelles que soient les conditions qu'il rencontre ? Non ? Alors quelle est la cause de cette douleur ? Quelle est la cause qui provoque cette expérience douloureuse ? Donc il faut déterminer la cause, il faut la trouver. Il faut savoir quelle est la cause de la souffrance. Là, ce que je viens de dénoncer, c'est ce qu'on appelle les deux premières nobles vérités. La troisième noble vérité, c'est reconnaissant la cause, si je mets fin à cette cause, je vais mettre fin à l'effet que produit cette cause, à savoir la souffrance. Et la quatrième noble vérité, comment faire pour mettre fin à cette cause? Quel est le chemin que je dois appliquer? Comment dois-je entraîner mon esprit pour mettre fin à cette cause de la souffrance? Et ça, c'est ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Et les quatre nobles vérités, c'est le premier enseignement du Bouddha. Toute la doctrine bouddhiste repose sur ces quatre nobles vérités. Tout ce qu'il a enseigné pendant 40 ans après, ça a été un développement d'une de ces quatre nobles vérités, notamment de la quatrième, le chemin qui mène à la cessation. Mais le bouddhisme vise cela et ne répond qu'à cela, ne peut répondre qu'à cela. Les autres questions existentielles, ça n'est pas du domaine, du ressort du bouddhisme. Donc on part de notre expérience d'aujourd'hui. Est-ce que je suis pleinement heureux, constamment heureux, ou est-ce que je fais l'expérience du bonheur de temps en temps, mais aussi de la souffrance et de l'insatisfaction, de la frustration, du mal-être, de l'inconfort, voilà, etc. Ce qu'on appelle dukkha. Et qui fait l'expérience du bonheur, qui fait l'expérience de la souffrance? C'est notre esprit. Quand je suis malheureux, mon esprit est dans une expérience douloureuse, ce n'est pas le vôtre qui vit cette expérience douloureuse, c'est le mien. Et si vous vivez quelque chose de malheureux, si mon esprit vit quelque chose d'heureux, eh bien, il est heureux, il n'est pas affecté par l'expérience douloureuse que vous pouvez faire, etc. Donc, c'est pourquoi le bouddhisme donne tant d'importance à la méditation. Parce que la méditation, c'est un travail sur l'esprit, un entraînement de l'esprit. Et on ne peut pas se libérer de la souffrance si l'on ne s'entraîne pas à être conscient de ce fonctionnement de l'esprit qui est cause de cette souffrance. C'est-à-dire que si on aborde le bouddhisme uniquement sur un plan intellectuel, à étudier des textes, à étudier des traités, etc., on n'avancera pas d'un iota quant à la transformation ou à la compréhension du fonctionnement de notre esprit. L'étude n'est pas mise au rebut, elle fait partie de la voie bouddhiste, hein, il ne faut pas cracher dessus, mais les textes sont clairs, les maîtres encore aujourd'hui sont clairs, ils disent tous, c'est un élément important, mais l'élément qui va permettre de transformer le fonctionnement de l'esprit, c'est la méditation. Méditer, littéralement, ça veut dire entraîner l'esprit. Et pour pouvoir observer le fonctionnement de l'esprit, il faut la vigilance. Parce que si notre esprit est constamment distrait, il part à gauche, il part à droite, dès qu'il y a une pensée qui traverse, dès qu'il y a une perception, j'entends un bruit, qu'est-ce que c'est que ce bruit, hein, etc. Il est constamment dans la distraction, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester 10 secondes tranquillement posé en observation sur ce qu'il vit. C'est le fonctionnement ordinaire de l'esprit. Ça, c'est la distraction. Il y a un autre facteur qui va empêcher cette vigilance de s'installer, c'est la torpeur, c'est l'opacité, c'est la lourdeur d'esprit. Hein? Quand on est fatigué, par exemple, c'est impossible de garder l'esprit très clair, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, etc. Au bout de 2 minutes, voilà. Et on s'endort. Et ça c'est les deux défauts de la méditation, parce que ça empêche en fait l'esprit, eh bien, d'être clair, d'être conscient, de maintenir cette vigilance. Et ça, c'est tout le but, hein, de cette vigilance, c'est le but de la méditation du calme mental, hein, jusqu'à ce que cette vigilance, elle devienne naturelle, elle s'établisse de façon naturelle dans l'esprit. Et ça demande un entraînement. On n'a pas à y arriver comme ça parce qu'on veut y arriver, hein. Mais petit à petit, notre esprit sera plus conscient de ce qu'il vit, de ce qui le traverse, de ce qui s'élève au sein de lui-même, de ce que les situations font naître comme sensation, comme perception, quels sont les facteurs mentaux qui apparaissent ou qui s'élèvent dans l'esprit. On aura une conscience qui permettra de reconnaître quand la colère va poindre, alors que sans l'entraînement, on va se savoir en colère quand on sera déjà dans la colère pas en train de casser une pile d'assiettes, mais quand même, que la colère, déjà, elle se sera manifestée peut-être par un état intérieur ou par une parole désagréable ou une attitude, en tout cas, désagréable. Donc, il y a un affinement qui va se faire par l'établissement de cette vigilance. Mais le but de la vigilance, c'est d'être conscient du fonctionnement de l'esprit. Ce fonctionnement de l'esprit qui est cause de souffrance, c'est le fait de, comme je disais tout à l'heure, de solidifier ou de cristalliser, de saisir ou de fixer ce qui traverse l'esprit. Et on ne pourra pas empêcher les pensées de s'élever dans l'esprit par rapport à ce que nous avons vécu dans notre passé. C'est une espèce de terrain qui produit des tas de pensées. C'est les souvenirs, c'est la mémoire, et ça, on ne peut pas empêcher cela. Et il y aura toujours cela. Ça continuera de s'élever. Sinon, on devient une espèce de légume anesthésié ou une espèce de pierre qui ne pense plus, mais il y aura toujours ces pensées. Comme il y aura toujours des pensées par rapport à ce qui va se passer le 21 décembre, la fin du monde. On nous le rabâche sans arrêt. Eh bien, voilà. Parce qu'on nous le rabâche, eh bien, plusieurs fois par jour, on peut avoir une pensée qui va s'élever, hein, par rapport à ce futur événement. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher. On ne pourra pas empêcher de se projeter dans l'avenir. La vieillesse, par exemple, c'est peut-être pas une partie de plaisir quand on s'imagine vieux. J'en sais rien, encore trop, pour le moment, mais voilà. La maladie, comment on va vivre si demain on nous annonce une maladie grave, etc. Et ça, on ne peut pas s'empêcher de se projeter dans cet avenir-là, d'imaginer ce qui peut se passer. Et notre mort, et la mort des autres, et de nos proches, etc. On y pense tous. Et méditer ne va pas consister à ne plus penser à cela. Par contre, on peut observer aujourd'hui que s'il y a une pensée relative à une situation que nous avons vécue il y a quelques années, qui a été douloureuse, ça c'est une pensée qui s'élève. Et cette pensée, elle provient du fait d'avoir vécu cette situation. Et cette situation, elle n'existe plus. C'est donc un souvenir. Cette pensée n'est qu'un souvenir. Si je saisis cette pensée quand elle s'élève dans mon esprit, immédiatement l'expérience de ce que j'ai pu vivre il y a lors de cette situation, eh bien, va à nouveau être vécue par l'esprit. Peut-être de façon atténuée, mais si c'était une expérience douloureuse, je vais revivre d'une certaine façon cette douleur. Or, ce n'est qu'une pensée qui a traversé l'esprit. Et ce n'est pas le fait d'avoir cette pensée qui provoque à nouveau cette douleur. Et ça, il faut mais absolument que ce soit clair et que vous puissiez établir ça avec une certitude. Non pas une certitude parce que vous l'avez trouvé dans un bouquin, mais une certitude parce que vous l'avez observé et expérimenté par vous-même. La pensée par elle-même, par le fait de s'élever, d'apparaître dans l'esprit, de traverser l'esprit et de disparaître, n'a pas le pouvoir de perturber l'esprit. Par contre, c'est lorsque nous saisissons cette pensée, que nous la retenons, que nous identifions à elle, hein, que nous faisons un avec elle, quoi. Là, cette façon de fonctionner par rapport à la présence de cette pensée, ça fait naître à nouveau l'expérience douloureuse que nous avons vécue lors de cette situation, par exemple. Le responsable de notre souffrance, c'est la saisie, c'est le fait de tout solidifier. Ce n'est pas fondamentalement les situations, les circonstances que l'on rencontre, puisque deux personnes peuvent vivre la même situation d'une façon différente. Donc ça veut dire que la situation en elle-même, par nature, n'a pas la possibilité de nous faire souffrir. C'est donc autre chose qui nous fait souffrir. C'est le fait de saisir tout cela. Et ça, nous en avons beaucoup parlé les mois derniers. Il faut absolument, si ce n'est pas clair, si ce n'est pas sûr comme expérience, si vous n'êtes pas certain de cela, continuez d'observer ce fonctionnement de l'esprit de façon à ne retenir que La cause de la souffrance, c'est la saisie de ce qui traverse l'esprit. Point. Et ça, c'est ce qu'on appelle le non-soi des phénomènes. On parle du non-soi des phénomènes parce que ces phénomènes, en fait, ne sont rien. Ils ne sont qu'une pensée, par exemple, n'est qu'un mouvement de l'esprit ou une énergie de l'esprit, mais que ce n'est pas la situation que l'on a vécue. C'est un souvenir, mais c'est complètement dépourvu d'existence propre. Cette pensée, elle s'élève parce que nous avons vécu une situation. Si nous n'avions pas vécu cette situation, cette pensée ne pourrait pas s'élever. Donc elle est dépendante. Et puis elle est totalement impermanente. Parce que regardez toutes les pensées que nous avons pu avoir depuis ce matin. Combien se sont élevées, combien ont traversé l'esprit, mais elles ont toutes disparu. Et il y a bien sûr un flot de pensées. C'est continu. Hein? Mais c'est un flot, c'est une succession en fait de pensées. Il n'y en a aucune qui décide de rester, de demeurer, et puis de s'installer dans l'esprit en se disant « Tiens, j'y suis bien, je vais y rester. » C'est du mouvement. Ça traverse. Ça traverse. Et nous, face à ce cinéma intérieur, cette pensée-là, oh, elle est agréable. Je la retiens. Et aussitôt, il y a de l'attachement qui naît dans l'esprit. Ou du désir. Cette pensée... Une autre pensée apparaît, celle-là je l'aime pas, alors je la rejette, mais ça veut dire que pour la rejeter, je la fixe. Je lui donne une importance. Et là, c'est de l'aversion, c'est de l'irritation, c'est de l'énervement, c'est de la colère, de la haine, etc. Mais le responsable de ça, c'est le fait d'avoir fixé cette pensée. Est-ce que notre esprit est totalement heureux quand il est sous l'emprise de l'attachement, quand il est sous l'emprise de l'avidité, quand il est sous l'emprise de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'orgueil, de l'indifférence, etc. Quand nous vivons cela, est-ce qu'on peut dire « Ah, oh, c'est le bonheur absolu !» Or, c'est ce que nous cherchons. Et l'esprit par nature, en fait, il est complètement paisible. C'est-à-dire que si l'on ne saisit pas ce qu'il traverse, ces facteurs perturbateurs n'apparaissent pas dans l'esprit. Et ça, il faut en faire l'expérience. Et ça, c'est un entraînement qu'il faut faire encore et encore, chaque jour, dans notre temps de méditation, de façon à ce que cette libération de la saisie par rapport au phénomène, eh bien, s'installe progressivement, mais de façon plus fréquente, jusqu'à devenir constante et naturelle. Ça ne se fera pas comme ça en 3 semaines parce qu'on décide de méditer. Voilà. C'est un entraînement et comme tout entraînement, il va falloir répéter la technique de méditation. Donc ça, on en a beaucoup parlé les mois derniers. Ce soir, je voudrais qu'on voit la nature de cette conscience qui perçoit les phénomènes. À quoi ressemble-t-elle ? Donc, on arrive au deuxième point, le non-soi de l'individu. Ce qu'on appelle le non-soi de l'individu. Le non-soi de l'individu, il est, comment dire, médité dans toutes les écoles bouddhistes, sans exception. Le non-soi des phénomènes, il n'est pas médité dans le Theravada, dans le petit véhicule. Et c'est dans le grand véhicule qu'on associe le non-soi des phénomènes au non-soi de l'individu. Le non-soi de l'individu, c'est plus difficile que le non-soi des phénomènes. Le non-soi des phénomènes, des situations, par exemple, quand on recherche si une situation existe par elle-même, c'est assez facile quand même d'observer que cette situation elle se met en place à partir de multiples causes, de multiples conditions, de multiples facteurs, mais que par elle-même, elle ne peut pas se mettre en place. Si j'ai chaud ce soir, c'est une situation. Est-ce que cette sensation de chaleur, elle existe par elle-même, ou est-ce qu'elle existe parce qu'il y a peut-être du chauffage, il y a ci, il y a ça, je suis trop habillé, ou je suis malade, ou, voilà. Mais s'il n'y a pas ces conditions-là, eh bien cette sensation ne peut pas être, je ne peux pas la ressentir, elle ne peut pas être présente. Donc elle est dépendante. Alors pour le non-soi de l'individu, hein, il faut 2 étapes. Et la première étape, les anciens, vous connaissez la méthode, c'est ce qu'on appelle l'approche analytique de l'actong, c'est-à-dire l'approche analytique de la vision pénétrante. Et on appelle, après Shiné, cette méditation du calme mental, le deuxième type de méditation, c'est ce qu'on appelle la vision pénétrante ou l'actong en tibétain, qui est traduit aussi par vision supérieure, ce qui n'est pas faux. C'est plus cette traduction-là qui correspond au tibétain. L'actong, là, c'est la vue, tong. Le tong, c'est la vue, et là, c'est supérieur. Et on traduit cette pratique aussi par vue pénétrante, parce que c'est la vue qui permet de pénétrer la nature même de toute chose. Ou la vue supérieure, dans le sens que c'est la vue qui dépasse la vue ordinaire ou la perception ordinaire que nous avons de nous-mêmes et des phénomènes. Et pour cette vision pénétrante concernant la conscience, il faut commencer par l'approche analytique. Et cette approche analytique, il faut en prendre soin et observer, jusqu'à en avoir la certitude. Bhokhara Rinpoche disait que les Occidentaux, parce qu'on est un peu, on comprend assez vite, intellectuellement, eh bien, nous négligeons cette approche analytique. On conclut tout de suite, mais quand on a conclu, eh bien, on conclut parce qu'on a compris avec la tête, c'est tout, mais qu'on n'a pas une certitude qui touche nos tripes, c'est-à-dire inébranlable. Une certitude qui naît vraiment d'une compréhension à partir de l'expérience qui naît de l'observation de cette conscience, de la nature de la conscience. Le Bouddha a établi que ce qui constitue un individu, c'est cinq constituants, qu'on appelle les cinq agrégats. L'agrégat de la forme, l'agrégat des sensations, l'agrégat des perceptions, l'agrégat des volitions mentales, des formations mentales, et l'agrégat de la conscience. À partir de là, le Bouddha a décrit que la conception que nous avons de moi, on voit ce moi comme étant une entité qui nous caractérise chacun. Et ce moi, il est vu selon trois caractéristiques. Il est vu comme une entité autonome, c'est-à-dire qu'il existe par lui-même. Il est vu comme une entité unique, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas vous. Et chacun a cette sensation d'être un individu, d'être une entité différente des autres. Autonome, parce que nous avons le sentiment que ce moi existe par lui-même et qu'il ne dépend de rien pour être ce moi. Observez si vraiment vous ressentez ce moi de cette façon. Et la troisième caractéristique qui fait qu'on ressent ce moi, c'est permanent. C'est-à-dire que ce moi, pour chacun d'entre nous, on le voit comme ayant toujours existé. C'est ce moi qui a été un petit bonhomme ou une petite fille il y a quelques années, qui est ce qu'il est aujourd'hui, et qui habite ce corps, etc., qui va donc durer le temps que ce corps va exister, et même si l'on imagine qu'il y a une prochaine existence, eh bien c'est ce moi qui va changer de corps, s'introduire dans un autre corps, etc. Et on voit cette entité, on ressent cette entité, on la vit comme selon ces trois caractéristiques, unique, autonome, permanente. Alors le Bouddha disait, si une telle entité existe, on doit la trouver dans un de ces agrégats qui constituent l'individu. Ou un de ces agrégats doit correspondre à la définition de cette entité, selon ces trois caractéristiques. Et l'approche analytique de la vision pénétrante, eh bien, ça consiste à observer ces cinq agrégats qui nous constituent. Est-ce que, oui ou non, je peux définir qu'il y a une telle entité dans un de ces agrégats, ou est-ce que un de ces agrégats peut être défini comme le moi? Et il faut prendre tout d'abord l'agrégat de la forme. Et quand on observe l'agrégat de la forme, pour établir, pour conclure que la forme est vraiment le moi, alors il faut pouvoir répondre oui aux trois caractéristiques. Oui, la forme est permanente, oui, la forme est unique, oui, la forme est autonome. Si vous répondez oui à deux caractéristiques, mais non à une troisième, ça démolit la perception que cet agrégat est le moi. Alors, vous ne trouverez pas la réponse. Enfin, il ne faut pas donner la réponse dès ce soir. Il faut observer, observer, observer pendant des semaines, pendant des mois, jusqu'à en avoir la certitude. Est-ce que l'agrégat de la forme, vous pouvez dire que c'est le moi? Quand vous observez votre corps, est-ce que vous pouvez dire que votre corps est unique? Unique dans le sens non composé. Non composé. Hein? Est-ce que cet agrégat de la forme, c'est-à-dire votre corps, il est permanent? Il y aurait du monde. Hein? Et puis s'il est permanent, ça veut dire sans changement. Parce que s'il se modifie, ça veut dire qu'il y a des choses qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Donc il y a des éléments non permanents. Qu'à regarder certaines photos. On voit bien que ça a bougé. Est-ce qu'il est autonome? Jusqu'à preuve du contraire, il a fallu un papa et une maman. Puis même si demain, on arrive à faire des individus sans papa ni maman, il faudra peut-être quand même quelque chose pour les faire. Mais je ne pense pas qu'un corps puisse apparaître comme ça, quoi. Et pourtant, il faut vraiment observer cet agrégat. Parce que lorsque ce corps a un dysfonctionnement, je souffre. Je souffre. Il y a bien un moi, quelque chose, qui s'identifie à ce dysfonctionnement de ce corps et qui donc a l'impression de faire l'expérience. Quand le corps cesse de fonctionner, ce qu'on appelle la mort, il y a le moi qui balise. Hein. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'identifie à la cessation du fonctionnement de ce corps. Donc il ne faut pas conclure, oui, le corps se modifie, donc il n'y a rien de permanent, donc ok, et ben voilà, le corps, l'agrégat du corps, l'agrégat de la forme n'est pas le moi. Point. Et je passe à l'agrégat suivant. Ce type de conclusion ne déracinera pas l'identification que on fait au corps, puisque de toute façon, quand le corps ne va pas bien, il y a bien quelque chose qui dit « je souffre, je ne vais pas bien », etc. Donc il faut bien observer, être sûr que le corps, la forme, cet agrégat n'est pas le moi, et qu'on ne trouve rien dans cet agrégat en tant qu'entité unique, autonome et permanente qui puisse être le moi. Et quand on dit bien à ce moment-là « je souffre », on commence à comprendre qu'il y a une erreur de perception, une erreur d'analyse, si vous voulez, dans cette affirmation « je souffre » parce que ce corps est en dysfonctionnement. Et à ce moment-là, on peut passer au deuxième agrégat, à l'agrégat des sensations. Alors, est-ce que cet agrégat est unique, est-ce qu'il n'y a qu'une sensation, déjà dans la définition, l'agrégat des sensations? Il y a combien de sensations? Oui, trois sensations. Agréable, désagréable et neutre. Non, mais il a révisé. Et donc, trois sensations. Donc déjà, le caractère unique à l'agrégat des sensations. Est-ce que les sensations sont autonomes? Est-ce qu'elles apparaissent comme ça? Ou est-ce qu'elles ne dépendent pas de quelque chose? Si vous avez une sensation, par exemple, de chaleur, et que cette sensation est agréable, est-ce qu'elle apparaît comme ça? Ou, comme je disais tout à l'heure, cette sensation n'est pas dépendante eh bien, d'autres éléments qui permettent à cette sensation d'être vécue ou d'exister. Est-ce qu'elle est permanente? Il y a des tas de sensations qui ont disparu et voilà. Et pourtant, quand on a une sensation agréable, on dit « Ah, je suis heureux ». Quand on a une sensation désagréable, on dit « Je souffre, je suis mal, je me sens mal », etc. Donc là encore, il y a bien une espèce d'entité qui s'identifie à l'agrégat des sensations. Alors là encore, il faut bien observer et que votre conclusion soit nette, définitive et ferme. On ne va pas y revenir encore dans 10 ans sur cette analyse. Soit fait, quoi. Et après, vous passez, troisième agrégat, agrégat des perceptions. Alors, les perceptions, hein, je suis là en train de percevoir de l'encens, par exemple. Est-ce que cette perception, elle existe par elle-même? Ou est-ce qu'elle n'est pas dépendante du fait qu'il y ait un bâton d'encens qui brûle? Donc, quel est le caractère autonome de la perception? Et observez toutes vos perceptions. La perception d'un bruit, par exemple, mais comment est formé un bruit? S'il y a une voiture qui passe et que vous entendez ce bruit, il est formé par tout un ensemble de choses. Amusez-vous à décortiquer tout ce qui permet à ce bruit, eh bien, d'être, non seulement des éléments physiques qui lui permettent d'être, mais il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait de la vibration, etc. Et il faut que vous puissiez le percevoir. Parce que si vous avez les oreilles bouchées, à ce moment-là, ben, vous ne le percevez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais vous ne le percevez pas. Et est-ce que la perception est permanente? Le bruit, ça dure un certain temps, et puis ça disparaît, etc. Et là encore, quand on a une perception désagréable, eh bien, on s'irrite, on s'énerve, et on se dit « Oh, je ne supporte plus, je me sens mal, etc. » Ou quand il y a une perception agréable, eh bien, « Oh, qu'est-ce que c'est bien, je suis heureux, etc. » Donc, par rapport à cet agrégat, il y a encore une identification. L'agrégat, maintenant, des formations mentales. Alors, les formations mentales, c'est tout le domaine des sentiments, des facteurs mentaux, des facteurs perturbateurs, le domaine des pensées. Alors déjà dans la définition, il y a déjà beaucoup de choses hein, qui vont réfuter, ça va réfuter le caractère unique de l'agrégat des formations mentales. Est-ce que les facteurs mentaux sont autonomes? Est-ce qu'ils arrivent par eux-mêmes ou est-ce qu'ils dépendent de multiples facteurs pour être? La personne pour qui vous avez un sentiment d'amour, par exemple, est-ce que ce sentiment d'amour est apparu comme ça, ou est-ce qu'il dépend quand même, ou est-ce qu'il s'est élevé par le fait de rencontrer cette personne, etc. Et prenez tous les facteurs mentaux. Analysez tous les facteurs mentaux. Observez dans votre méditation un facteur mental qui s'élève, et voyez s'il existe par lui-même ou de quoi il dépend pour être présent dans l'esprit. Et de même, quand vous analysez la permanence des facteurs mentaux, est-ce que la colère est permanente une fois qu'elle s'élève dans l'esprit? Est-ce que la jalousie est permanente? Est-ce que les sentiments d'amour que vous avez pour une personne sont permanents? Les avocats feraient faillite si c'était permanent. Nos meilleurs amis peuvent devenir nos meilleurs ennemis, et inversement. Et pourtant, hein, là encore, quand on est en colère, je suis en colère, je ne vais pas bien, quand il y a des sentiments d'amour, ah, qu'est-ce que je suis heureux, etc. Donc, il y a là encore toujours une entité eh bien, qui s'identifie au fonctionnement de cet agrégat. Et puis enfin, quand vous avez vraiment conclu par rapport à ce quatrième agrégat, eh bien, allez chercher l'agrégat de la conscience. Et là, passez du temps. Parce que c'est là où le moi se construit. C'est dans cet agrégat
qui se construit. Hein? Le pan, je pense donc je suis. C'est pas très bouddhiste ça. Non. Mais cet agrégat de la conscience, est-ce que vous pouvez me dire qu'il est unique? Observez. Il y a des, en Occident, on dit qu'on a 5 consciences. Dans le bouddhisme, on dit qu'on en a 6. Dans des textes bouddhistes, on dit qu'il y en a 8. Alors, il y en a 8, il n'y en a qu'une, il y en a 5. Cherchez, observez, concluez. Est-ce que la conscience, elle est autonome? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle existe par elle-même? Alors que je vous rappelle, on dit toujours je suis conscient de. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas un objet pour être conscient de cet objet, de quelque chose? Si vous prenez la conscience visuelle, par exemple, est-ce que cette conscience ne dépend pas d'un objet dont, que l'on voit? Est-ce qu'elle ne dépend pas d'une fonction? Est-ce qu'elle ne dépend pas non plus d'un organe qui permet à la conscience visuelle de fonctionner? Ça dépend déjà de beaucoup de choses. Et enfin, la conscience, est-ce qu'elle est permanente? Et là, il faut vraiment bien observer. Juste un indice pour observer si la conscience est permanente. Le Dalai Lama parle rarement de conscience dans les enseignements. Il parle toujours d'un flux de conscience, d'un continuum de conscience, d'un flot de conscience. Les textes parlent d'un continuum de conscience. Ça veut dire, en fait, d'une succession d'instants de conscience. Mais cette succession, enfin, ces instants de conscience sont tellement, existent tellement de façon rapprochée, que ça donne une impression de continuité. Mais ce n'est pas parce que ça donne une impression de continuité que la continuité de cette conscience peut être décrite de cette façon-là, exister de cette façon-là. Ce n'est pas parce qu'on voit un mouvement quand on regarde un film que ce mouvement existe. C'est une succession de plans fixes. Et un film, ce n'est rien d'autre qu'une succession de plans fixes. Il n'y a aucun mouvement dans un film. Seulement voilà, ça passe à telle vitesse, la succession est tellement rapide que ça donne une impression ou une illusion de mouvement. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette impression de mouvement que ça traduit le mouvement du film. De la même façon, il faut voir au niveau de la conscience, si vous arrivez à voir que ce ne sont que des instants de conscience, on pourrait dire que des instants de plan fixe de conscience, mais tellement répétés de façon rapprochée que ça donne une impression de continuité, c'est toujours la même conscience qui vit tout ce qu'elle perçoit. Voilà, concluez, cherchez et concluez. Et quand vous avez fini ça, où est le moi? Il n'y a rien d'autre qui constitue un individu que ces 5 agrégats. Alors, le Bouddha n'a pas dit que le moi n'existait pas. Mais il a dit qu'il n'existait pas tel qu'on le perçoit, tel qu'on l'imagine. C'est-à-dire, le moi n'existe pas en tant qu'entité unique, autonome et permanente. Et après, il a dit que le moi existait de façon conventionnelle. Donc on pourrait dire qu'il n'existe pas de façon absolue, de façon ultime, mais il existe de façon relative ou de façon conventionnelle, parce que le moi décrit un ensemble de choses. Mais s'il décrit un ensemble de choses, il n'est pas unique. Il n'est pas autonome et il n'est pas permanent. Donc, cette approche analytique de l'actong, de la vision pénétrante, ça va faire naître dans notre esprit une certitude quant à la nature de cette conscience, surtout par rapport à cet agrégat de la conscience. Et cette compréhension-là, elle ne va pas déraciner l'illusion que la conscience est une entité unique, autonome et permanente. Mais ça va permettre quand même de, à la saisie, de se relâcher quand on va percevoir la saisie qui va s'agripper ou se concevoir en termes d'entité unique, autonome et permanente, et qui va expérimenter en termes d'entité les sensations, les perceptions ou les formations mentales ou le fonctionnement de l'agrégat de la forme. Mais il faut qu'il y ait cette certitude dans l'esprit quant à la nature de cette conscience. Et cette certitude, il ne faut pas l'avoir parce qu'on l'a trouvée là encore dans un bouquin ou parce qu'on a entendu un enseignement ou une conférence sur le sujet. Ça ne fera pas avancer, je dirais, la compréhension de la nature de la conscience d'un iota. Il faut absolument observer par soi-même. Et ça, c'est méditer. Le Bouddha n'a pas réalisé la nature de cette conscience comme ça, parce qu'il a récité 1 million de mantras ou parce qu'il s'est prosterné 100 000 fois. Il a réalisé la nature de la conscience parce qu'il a observé. Il a utilisé son discernement, il a utilisé son intelligence, sa capacité à observer et à comprendre ce fonctionnement. Il faut pouvoir voir ce fonctionnement-là. Si on ne le voit pas, on est dans une croyance. Le Bouddha a dit, alors on croit que, voilà. Le Dalai Lama a dit aujourd'hui, voilà. Mais ça ne sera pas suffisant pour faire naître cette compréhension. Il faut passer par cette observation. Et c'est pour ça que Bhikkhu Rinpoche disait que, eh bien, nous les Occidentaux, on avait tendance à négliger cette observation. Et tant que cette certitude, cette compréhension par certitude n'est pas née dans notre esprit, nous devons continuer d'observer, d'observer et d'observer. Lorsque nous avons cette certitude, on applique après cette compréhension-là sur le moi qui saisit quelque chose. Et on applique en se disant, mais attends, tu es en train de saisir là, il n'y a personne pour saisir. J'ai compris qu'il n'y avait personne. Et donc cette façon de relativiser le fonctionnement de la saisie quand on en est conscient, ça va permettre à cette saisie de se relâcher. Et l'expérience du non-soi de l'individu, à ce moment-là, va s'élever dans l'esprit. Et si l'on répète 1 million de fois ou 100 000 fois cette expérience, eh bien celle-ci va se stabiliser. Mais toutes les pratiques, ce sont des moyens pour nous ramener à l'instant présent et observer le fonctionnement de l'esprit dans cet instant présent. Alors, le week-end dernier, j'étais à Berlin et il y a une personne qui m'a dit, oui, mais pourquoi est-ce que, alors là, je m'adresse plus aux pratiquants, là, aux anciens qui sont dans le Vajrayana, hein, pourquoi est-ce que les pratiques préliminaires sont dites préliminaires? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose derrière ces pratiques-là? Dans notre lignée, cette réalisation de la nature de la conscience, c'est ce qu'on appelle le Mahamudra, c'est-à-dire un synonyme pour l'éveil. Cet éveil, ce n'est pas quelque chose qui va se rajouter, c'est quelque chose qui va disparaître. Ce qui va disparaître, c'est la conception d'une entité unique, autonome et permanente. Et alors vous avez des personnes qui, lorsqu'elles commencent cette approche analytique, ils commencent à travailler sur ce qu'on appelle la vacuité, c'est-à-dire le vide d'existence propre, ont peur. Ils commencent à paniquer. Parce que s'il n'y a rien, mais est-ce que je vais continuer d'exister? En gros, ça veut dire ça. Et on voit à l'époque du Bouddha, dans certains textes, que quand le Bouddha enseignait cela, il y avait des gens, des disciples, qui s'évanouissaient. Parce qu'en fait, dans leur esprit, s'il n'y a plus de moi, il n'y a plus d'existence. Donc il tombe dans ce qu'on appelle le nihilisme. Il n'y a plus rien, la non-existence. Vous avez beaucoup de voies spirituelles qui sont dans l'éternalisme. C'est-à-dire que c'est tellement un fonctionnement habituel à l'esprit de concevoir qu'il y a un moi, eh bien qu'il y a des voies spirituelles qui ont développé ce concept d'un moi, mais en le divinisant, si vous voulez, et en l'appelant âme ou atman. Atman dans l'hindouisme. Eh bien, le bouddhisme est né de cette réfutation de cette notion d'atman. Si l'âme, telle que le christianisme la conçoit, ou telle que l'hindouisme conçoit l'âme, si cette âme existait, le bouddhisme serait une branche de l'hindouisme. Et le Bouddha n'aurait jamais cherché à voir la nature de ce moi, à voir par quoi cette notion d'âme est construite. Et le Bouddha a démontré que c'est une notion simplement, c'est un concept cette âme. Que ce moi n'est qu'une illusion. En termes d'illusion, ça veut dire que nous n'avons jamais existé en étant une telle entité. Mais nous croyons en une telle entité. Mais c'est pas parce qu'on croit qu'on y croit que quand on croyait que la Terre était plate, ça n'était pas parce qu'on y croyait que la Terre était plate. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on croit à l'existence d'une telle entité que cette entité existe. Hein? Donc il n'y a pas d'ego à démolir. Il n'y a pas de moi à déraciner. Il y a la croyance en l'existence d'une telle entité qu'il faut déraciner. Alors les préliminaires, pour en revenir aux préliminaires, quand on aborde ça, on est dans le cœur de la voie qui conduit à l'éveil là. Et l'éveil, donc je disais, dans notre lignée, ça s'appelle le Mahamudra. Et il y a deux façons d'approcher l'éveil. Et il y a une façon directe et une façon plus progressive. La façon progressive, c'est de purifier les voiles de l'esprit qui empêchent la reconnaissance de la nature de la conscience. Et c'est ce qu'on appelle les préliminaires. Et ces pratiques de purification sont dites préliminaires parce que, une fois accomplies, elles permettent aux pratiquants eh bien, d'aborder d'autres moyens progressifs pour arriver à cette compréhension de la nature de la conscience. Et le moyen qui vient après, c'est la méditation d'un yidam. Non pas un yidam tel que Chenrezi ou Tara, mais un yidam de la quatrième catégorie de tantra, l'Anuttara Yoga Tantra. Et pour avoir une pratique de cette catégorie de yidam, il faut faire les préliminaires. C'est impossible d'avoir une instruction sur un yidam de ces yogas, de ces tantras, pardon, insurpassables, sans être passé par les préliminaires. Et c'est pourquoi ces pratiques de purification sont dites préliminaires à ce moment-là. Quand on est dans la pratique du yidam, il y a la pratique extérieure, où on est le yidam, on s'identifie au yidam. Le yidam, c'est un symbole de méditation. Ensuite, la pratique intérieure, alors pendant 1 million de fois, on est yidam. Ensuite, on passe à la pratique intérieure qui consiste à visualiser tout le corps subtil du yidam en termes de canaux subtils, de chakras, etc. Pendant 1 million de fois, on visualise bien, de façon à ce que ce soit bien clair. Et une fois que la pratique intérieure est finie, on passe à la pratique secrète qui consiste à faire les yogas de Naropa par exemple, et qui consiste à avoir une action sur les canaux et sur les chakras, de façon à ce que cette action-là fasse naître la réalisation de la nature de cette conscience. Donc on voit que c'est tout un enchaînement progressif, et on voit bien que les quatre pratiques préliminaires, qui sont des pratiques de purification, là, elles ont un sens d'être appelées préliminaires. Mais l'autre façon directe d'aborder le Mahamudra, ou d'aller vers l'éveil, c'est une façon directe qui n'utilise pas de yidam ou de yoga. c'est une pratique plus directe. On reçoit d'emblée les instructions sur la nature de cette conscience. Ça, c'est Gampopa dans notre lignée qui a beaucoup enseigné de cette façon-là. Aujourd'hui, vous avez par exemple Rinpoche Rinpoche, c'est sa façon d'enseigner. Vous avez Mingyur Rinpoche. Je lisais un texte à Berlin de Mingyur Rinpoche qui concluait en disant « Lorsqu'on reçoit ce type d'instruction pour le Mahamudra direct, la pratique d'un yidam n'est pas requise. » C'est clair. Rinpoche Rinpoche, pour ceux qui le connaissent, sachez que c'est cette méthode-là qu'il enseigne. Il ne donnera pas de yidam lorsque vous aurez fini les pratiques préliminaires. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut quand même faire les pratiques préliminaires. Alors, dans cette approche directe du Mahamudra, ces pratiques préliminaires, il faudrait peut-être leur changer de nom, ne plus les appeler préliminaires, parce que on ne va pas avoir un yidam après. Il faudrait les appeler, voilà, pratiques de purification. Mais elles sont nécessaires pour favoriser la purification des voiles qui, aujourd'hui, font obstacle à cette compréhension de la nature de la conscience, mais en termes d'expérience, en termes de réalisation et non pas en termes de compréhension intellectuelle. Et c'est pourquoi, je suis désolé, mais que vous soyez dans une voie progressive ou une voie plus directe, vous ne pouvez pas ne pas faire les préliminaires. Quand on dit que Rinpoche Rinpoche est un maître de la voie directe, ce qui caractérise un peu ces maîtres-là, c'est qu'ils n'ont, comment dire, on n'a pas l'impression qu'ils enseignent l'essence même du Dharma. Ça se fait dans le quotidien. Bien sûr, pendant ces enseignements, il explique la nature de l'esprit, la nature de la conscience, beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, bon, je vais vous introduire à la nature de l'esprit, prenez la pause, mettez la colonne vertébrale bien droite, soyez très, très concentré, écoutez ce que je vous dis. Puis il dit la nature de l'esprit. Bukhara Rinpoche faisait comme ça. Rinpoche Rinpoche, il ne fait pas comme ça. Les maîtres du Mahamudra, dans la voie directe, ils n'avertissent pas. Toujours être prêt. Toujours être ouvert à l'enseignement. Parce que Rinpoche, il faut se méfier. Quand il ferme son bouquin, c'est là où il risque de se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne prend plus pour support un texte, mais il part ensuite dans son expérience. Et ça, j'allais dire méfiez-vous. Il ne faut pas se méfier, au contraire. Hein? Mais il part vraiment dans son expérience, et là c'est vraiment la transmission d'esprit à esprit, c'est ce qu'il vit. Si on est totalement réceptif à ce moment-là, alors on reçoit vraiment. Et dans notre esprit à ce moment-là, il y a une compréhension qui s'élève, on se dit mais c'est bien sûr, je n'ai jamais vu ça comme ça. Mais si on se dit, oui, bon, ça y est, il part, allez, dans ses histoires, etc., et pendant ce temps-là, je peux penser à ce que je vais manger tout à l'heure, ou ce que j'ai fait hier, etc. Alors là, il n'y a aucune transmission. Elle se fait, mais alors, ça ressort aussitôt. Quoi. Ça ne rentre pas. Quoi. Et je dirais même que Rinpoche, ça peut se faire quand on mange avec lui, quand on se promène avec lui, quand on discute avec lui, quand on plaisante avec lui, quand on le voit comment il aborde telle personne, comment il aborde telle situation. C'est des transmissions directes, ça. Il faut vraiment l'observer. Quand il est à table et qu'il y a des personnes qui disent « Oh non, je ne veux pas venir manger à sa table, etc. » Ne soyez pas aussi humble. Hein. Il est là pour ça, quoi. Côtoyez-le. Il n'y a pas de protocole avec lui. Alors venez à sa table, mais ne venez pas simplement pour plaisanter parce qu'il aime bien plaisanter. Venez et observez. Observez. Comment il vit la situation, comment il s'adresse à une personne, etc. Là, vous verrez comment est son esprit. L'enseignement, ça n'est pas un enseignement uniquement didactique, avec voilà, introduction, etc. quoi. Hein? C'est l'expérience du maître qui est un véritable enseignement et un enseignement direct. Mais plus nous aurons fait ce travail de la vision pénétrante par rapport à ces agrégats, plus nous aurons une compréhension claire, même si nous n'avons pas fait l'expérience, mais nous avons une compréhension claire, définitive, de la nature de cette conscience. Plus l'expérience, par différents moyens, par la présence du maître, par le fait de reprendre ou de poursuivre les pratiques préliminaires, etc., eh bien, il sera de plus en plus facile à cette expérience de s'élever. Et cette expérience, une fois qu'elle s'élève, mais on voit ce que c'est la nature de cette conscience. On voit que le moi que l'on établit de façon absolue, c'est juste une construction, quoi. Et que ça ne correspond pas à la réalité. Et même si ce n'est qu'une expérience, elle va disparaître, et l'illusion ou l'ignorance va revenir. D'accord. Mais on aura vu, quand même. On aura vu. C'est-à-dire, on sait ce que c'est. Et donc après, eh bien, on va réaxer toute notre pratique, eh bien, pour qu'elle se renouvelle. Et quand cette expérience va devenir stable, eh bien, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Et plus nous pratiquerons les préliminaires, c'est-à-dire, mais pas seulement les préliminaires, les paramitas, les vertus transcendantes, par exemple, eh bien, plus les voiles vont se purifier, plus il sera possible à cette expérience de s'élever de façon rapide, naturelle et fréquente. Dans ce texte, Mingyo Rinpoche disait que les quatre préliminaires spécifiques, non, les quatre préliminaires communes, vous savez, la réflexion sur précieuse existence humaine, sur la nature du samsara, sur la loi du karma et sur l'impermanence. Ce sont des préliminaires qui sont très importantes dans le domaine du Theravada, dans le Hinayana, dans le petit véhicule. Et que dans le grand véhicule, il faut que les quatre préliminaires spécifiques, c'est-à-dire ces quatre pratiques de purification, elles soient associées aux paramitas. Aux paramitas. C'est clair que nous avons besoin, quand vous prenez par exemple la pratique du refuge avec les grandes prosternations, hein, il va falloir la générosité pour les faire. Il va falloir vraiment développer la bodhicitta, penser à tous les êtres qui souffrent, à tous les êtres qui ne peuvent pas faire cette pratique et la faire pour eux. Et pour pouvoir la faire 100 000 fois, il va falloir vraiment y penser aux autres. C'est-à-dire que le don, la générosité, le don de soi-même, l'abandon dans sa nature de Bouddha, tout ça, ça fait partie de la paramita de la générosité. Hein? Ça va demander de l'éthique aussi. Une structure de vie pour pouvoir mener à bien, à terme, cette pratique. Ça va demander de la persévérance, ça c'est clair. Hein? Et puis ça va demander de la patience. Ça va demander enfin de la concentration. Et ça va demander la connaissance transcendante. Pour chacune des préliminaires, vous avez besoin des 6 paramitas en même temps pour les faire. Si vous n'avez pas cette conscience des paramitas, vous ne ferez pas les préliminaires. Donc c'est pas inintéressant de voir que ces pratiques de purification, eh bien, on peut les associer aux paramitas. Et ça, c'est vraiment, ça devient vraiment une pratique du grand véhicule. Alors voilà, c'est peut-être pas très rigolo comme sujet de méditation pour les fêtes, hein, mais essayez d'observer quand même ces 5 agrégats, leur nature, surtout l'agrégat de la conscience, pour voir si y en a un qui correspond à une entité unique, autonome et permanente. Quand le Dalai Lama ou un maître réalisé dit « moi », il continue de dire « moi », il continue de dire « je », hein, mais simplement, il n'est plus dupe, parce qu'il ne croit plus à l'idée qu'on se fait, nous, ordinaires, de ce qu'est le moi. Il utilise ce mot, mais il sait très bien à quoi il fait référence, à quoi est ce moi. Et ça, c'est la grande différence entre eux et nous qui n'avons pas encore déraciné cette saisie égotique. Mais il faut vraiment comprendre, et j'en terminerai là, mais il faut vraiment comprendre que ce déracinement de la conception d'une telle entité, ça ne se fait pas par miracle, ça ne se fait pas par magie, ça ne se fait pas parce que j'ai récité un million de mantras, quoi. Ça se fait par l'observation de l'esprit, quoi. Et toutes les écoles bouddhistes observent l'esprit, travaillent sur leur esprit, quoi. Vous allez dans le Theravada, ils observent leur esprit. Vous allez dans le Zen, ils observent leur esprit. Et bien dans le Vajrayana ou le bouddhisme tibétain, ils observent leur esprit. Les pratiques à réciter un million de fois, c'est pour nous ramener dans l'instant présent, parce que cette observation de l'esprit, elle ne peut se faire que dans l'instant présent. Et si on observe un million de fois notre esprit et qu'on arrive un million de fois à lâcher ce qui se présente là, immédiatement dans l'esprit, oui, ça va stabiliser ce lâcher, ça va stabiliser cette expérience. Mais c'est autre chose que de se dire, je récite un million de fois, et quand j'aurai récité un million de mantras, alors la nature de l'esprit, cette compréhension, va s'élever comme par magie dans l'esprit. Des questions?
Vous pouvez nous donner la liste des préliminaires?
Alors les préliminaires spécifiques, c'est la première, c'est la pratique du refuge que l'on fait avec les grandes prosternations. Ensuite, on va ça a le sens de s'abandonner à sa nature de Bouddha. Ensuite, c'est la méditation de Vajrasattva, donc une visualisation qui va purifier tout l'attachement, toute la saisie que nous développons par rapport à tout ce qui nous est négatif, nous est inconfortable, nous est douloureux. Ensuite, la pratique du mandala, on va offrir des mandalas. On va, pendant cette pratique, offrir absolument tout ce que l'on aime pour purifier l'attachement que l'on développe par rapport à tout ce qui nous est agréable, heureux, etc. Tout ce à quoi on est attaché. Et quand nous avons absolument tout purifié, il reste la quatrième pratique qui est le Guru Yoga, c'est-à-dire, en fait, notre esprit, eh bien, fait un ou est en union avec l'esprit de ce qu'on appelle notre lama racine, c'est-à-dire l'éveil. Et on stabilise cette expérience d'union par, à nouveau, 100 000 fois la répétition de cette pratique. Et c'est pourquoi, par exemple, le précédent Kalon Rinpoche disait, mais ces pratiques préliminaires, elles conduisent à l'éveil. Il n'y a pas besoin de faire autre chose derrière. Elles conduisent à l'éveil. Alors vous pouvez les utiliser pendant toute votre vie, décider que pendant votre vie, eh bien, vous faites ces pratiques préliminaires. Mais que ça ne vous empêche pas d'observer votre esprit et de lâcher la saisie quand elle se manifeste. D'autres questions? Hervé? Non?
Sur les premiers mots, parce que moi qui pratique les premiers mots, j'ai vraiment beaucoup de mal à observer mon esprit quand je suis en mouvement dans les prosternations. Autant je peux l'observer quand je suis assis sur le coussin, ça n'y a pas de souci, je suis complètement, souvent en phase avec l'observation. Autant pour moi, les prosternations, c'est de l'agitation permanente. Et en plus, j'avais cru comprendre que justement les pratiques du Vajrayana n'étaient pas essentielles pour aboutir à la compréhension. compréhension de la nature de l'esprit. Et pour moi, les préliminaires, ça fait partie du Vajrayana.
Non, elles ne sont pas, elles ne sont pas essentielles, puisque dans le zen, il n'y a pas de pratique préliminaire.
Oui, non, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut le faire.
Parce que nous inscrivons dans la lignée du Mahamudra, et dans la lignée du Mahamudra, il y a les préliminaires.
Oui, mais puisque quelqu'un comme Ringo Rinpoche et d'autres disent que bon, bah, maintenant, les pratiques du Vajrayana...
Non, il ne dit pas ça.
D'accord.
Il ne dit pas ça. Et Ringo Rinpoche, il parle des préliminaires. À chaque enseignement dans le Mahamudra, il parle des préliminaires. D'accord. Tous les somakams qu'il fait, quand il aborde le Mahamudra, il parle des préliminaires. Ringo Rinpoche, il ne donne pas de yidam. Parce que pour, et ça c'est différent, c'est une pratique du Vajrayana, mais il ne donne pas de yidam. Pourquoi? Parce que quand on est dans une pratique de yidam de l'Anuttara Yoga Tantra, ça ne peut se faire qu'en retraite. Si ce n'est pas des retraites de 3 ans, il faut s'isoler pour vivre, pour pratiquer ce type de yidam.
Ah,
oui. Donc c'est pas adapté.
Parce que les visualisations, tout ça, les déités, c'était pas adapté aux occidentaux.
Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne dit pas, par exemple, qu'il ne faut pas faire la pratique de Chenrezig, mais il faut la faire dans le sens que la pratique de Chenrezig, c'est un support qui va permettre d'être conscient de ce qui se passe dans l'instant présent, là, dans notre esprit. Et quand vous faites, par exemple, les prosternations et que votre esprit est agité, soyez consciente de cette agitation. Et bien lâchez à ce moment-là cette agitation, et bien vous serez complètement dans l'abandon qui a le sens de faire la prosternation.
Et elle. Moi, dans le mouvement, j'arrive pas à lâcher. C'est même en promenade, j'arrive pas à lâcher. Et que quand je suis assise, immobile, que je lâche, quoi.
Et pourtant, pourquoi le Vajrayana utilise le corps? Parce que c'est important pour le Vajrayana que le corps participe à la pratique, parce qu'on accomplit des actes négatifs, pas seulement par la parole ou par la pensée, mais aussi par le corps. Mm-hmm. Donc, que corps, parole et esprit pratiquent aussi, puisque nous accumulons des actes négatifs par ces trois portes, comme on dit. Après, bon, ben, faites-les lentement, je sais pas. Ouais, de façon à être plus... Que le corps ne devienne pas... Que le mouvement du corps ne devienne pas un obstacle à ce qui se produit dans l'esprit, enfin. C'est pas trop... Il ne faut pas se dire, ouais, si je vais lentement, j'arriverai jamais à en faire 100 000, ou, etc.
Hein. C'est... Ah bon, d'accord. Pour l'instant, je suis même pas dans
très
la
bien,
question.
Ouais.
Non, je suis vraiment dans la question du sens, et pour moi, ça ne prend pas trop sens. Quoi. J'ai du mal à...
Le sens, c'est vraiment l'abandon. Ah, ouais. Et ça a du sens quand vous faites quelque chose qui, par le corps aussi, qui traduit ce que vit l'esprit. On n'est pas que des êtres mentaux, quoi. Quand dans notre vie de tous les jours, quand, je sais pas, on aime quelqu'un, on traduit cet amour, pas seulement par des paroles, pas seulement par des pensées, mais aussi par notre corps. Quand on déteste quelqu'un, il y a la pensée, il y a la parole, mais il y a le corps aussi qui participe à ça. Donc... On fonctionne avec le corps aussi. Donc dans la pratique, le sens que vous donnez, par exemple, mentalement, au fait de vous prosterner, attention, la prosternation, c'est simplement le mouvement du corps. Le sens, c'est le refuge. C'est le refuge, hein, de cette pratique-là. Et ça veut bien dire quelque chose quand même, quand le corps se prosterne de tout son long pour exprimer le refuge. On s'en remet, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se prosterner, hein.
Se prosterner, ça va, c'est se relever.
Mais c'est des bretelles.
Non, mais... Allez, c'est bientôt les fêtes. Hein. Donc, moi j'entends bien ce que je dis. Mais si je l'entends comme ça sans avoir un peu pratiqué, je me dis, oh là là, ouf, c'est trop exigeant, j'y arriverai pas. Et avec un petit peu de pratique, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé d'être vachement tolérant avec moi-même. Je dirais, t'appelles pas, tu fais avec les moyens du bord. Et puis
bien
c'est
sûr.
Tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous entends parler de ça. Si je recommande le numéro 1, non, en exagérant.
Non, chacun va à son rythme dans la pratique.
Donc ça va, je peux passer les mots.
Chacun va à son rythme, en étant conscient de sa paresse, hein, évidemment.
Oui. Non, parce que sinon, on inverse ça s'adresse à. Dans l'idéal, il faut faire bien les 100 000 prosternations, enfin, les préliminaires. Ça s'adresse à des gens qui ont un esprit stabilisé et tout. Donc, le but, c'est justement aussi de stabiliser l'esprit. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si on le fait parfaitement, il n'y a plus besoin de les faire. Ça veut dire qu'on est tout bon. Oui, je recommence.
Si on les fait parfaitement.
Si, Père Arnaud, il dit 100 000 prosternations, tout va très bien. Ah, c'est du bonheur, mais à chaque fois l'esprit est stabilisé, chaque fois on pense à tous les êtres, quels qu'ils soient, à chaque fois. Mais j'ai plus besoin de les faire si j'en suis déjà à cet état-là. Ce que je veux dire par là.
Si vous en êtes à cet état-là, oui, il n'y a plus besoin de les faire. Ouais, ça veut dire qu'il reste
beaucoup
de temps.
Mais comme je l'entends, moi, ça veut dire que il faudrait être dans cette. C'est impossible de le faire parfaitement, quoi. Donc,
non, mais faites-le avec tout votre cœur,
ouais,
avec toute votre motivation, avec toute votre sincérité, et ne le faites pas comme un exercice pour avoir de bons abdômes au bout des 100 000, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas dans le temps, c'est pas... C'est ici, non, c'est... Voilà, au mieux, et peu importe. Après, la sentence du lama, entre guillemets, qui va dire, comme l'anecdote d'une personne qui a recommencé 4 fois, c'est pas important. Enfin, c'est autre chose. Hein, il ne faut pas prendre à l'envers l'exemple que vous avez donné. C'est bien, il faut faire sérieusement. Et puis, après, 100 000, 200 000.
Associer les paramitas au préliminaire. Ça va modifier la façon de les faire, de les aborder, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est l'observation de l'esprit. Si vous faites les préliminaires sans qu'il y ait observation de l'esprit, ça ne sert pas à grand-chose. Observez l'esprit, et n'observez pas l'esprit seulement quand vous avez les fesses sur un coussin. Observez l'esprit, là, quand on va se séparer, par exemple, quand vous rentrez chez vous, si vous êtes seul au volant de votre voiture, profitez de ce moment-là, vous lui mettez tout de suite France Info, profitez de ce moment-là pour vous dire, tiens, ok, que se passe-t-il dans mon esprit? Qu'y a-t-il? Soyez conscient de ce que vous vivez dans l'instant présent. Mais il n'y a pas de mais. Essayez d'être conscient le plus souvent possible de ce qui se passe dans votre esprit. Méditer, c'est ça, quoi. Méditer, c'est ça. Vous pouvez méditer en marchant, vous pouvez méditer en mangeant. Méditer n'est pas seulement concentré sur le fait de manger. C'est être conscient de ce... Pendant que vous mangez, qu'y a-t-il dans mon esprit? Par exemple, ceux qui viennent le week-end à Luce. Vous avez vu que le week-end, le samedi soir, on fait silence à partir de 18h jusqu'au lendemain matin, 8h. En sachant qu'il y a quand même 8h de nuit. Hein. Donc, ça fait déjà pas beau. Ça réduit déjà les heures de silence, on va dire. Bon. Mais vous avez des personnes qui ont beaucoup de mal à être dans ce silence. Je ne regarde personne.
Je me force à me regarder.
C'est lui qui m'a regardé. Hein. Mais non, pas vous, non. Mais Le silence, c'est pas une corvée ou une contrainte. C'est justement une occasion, mais de n'avoir que l'occasion d'observer ce qui se passe dans mon esprit, puisque je peux pas parler à l'autre. Alors, je parle avec moi-même, j'observe ce qui se passe dans mon esprit. C'est vraiment une occasion unique d'être présent le plus souvent possible, de dire, bon, bah voilà, je suis en train de manger, mais il faut que je me taise. Bon, qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit, le fait d'être en silence, par exemple? Qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit? Ça peut crisper. Ben oui, ben à ce moment-là, je suis vraiment conscient de la crispation. Et là, je peux lâcher. Etc., etc. C'est en fait juste un moyen pour observer notre esprit dans l'instant présent. Mais cette observation de l'esprit dans l'instant présent, on peut le faire le plus souvent possible, quoi. Dès qu'on est tranquille, quoi. Même là, alors que vous écoutez, il doit y avoir une partie de votre esprit qui doit être consciente de ce que ça fait naître dans votre esprit comme réaction, comme mouvement, comme pensée, comme facteur perturbateur. Il ne va pas bientôt faire la dédicace parce que je suis fatigué. Bon, s'il y a ça qui s'élève dans l'esprit, c'est très bien, pas de jugement par rapport à ça. Mais soyez conscient de ça et lâchez. Immédiatement, vous faites l'expérience que même s'il y a ça dans l'esprit, si je ne saisis pas, c'est pas grave, je peux encore attendre 10 minutes. Etc., etc. Et ça, c'est vraiment méditer, quoi. Il y a trop de personnes qui voient la méditation comme un entraînement sur le coussin. Si vous pouvez passer des heures sur le coussin tous les jours, mais c'est très bien, faites-le, il n'y a pas de meilleure condition. Et si vous ne pouvez pas, adaptez votre pratique à votre façon de vivre. Et joyeuse fête quand même.
Il faut être patient, quoi.
Ah, mais c'est la deuxième, la troisième paramita. La patience. Ouais. La patience. Mais est-ce qu'on n'est pas patient dans beaucoup d'autres domaines pour apprendre quelque chose? Mais c'est sûr qu'il faut. Ça ne va pas se produire comme ça.
Non, c'est long. Très long.
Mais en même temps, je ne sais pas, moi j'aurais tendance à dire que le chemin en lui-même, c'est une source de joie, que c'est, c'est un sens à notre vie aussi que de suivre un chemin. C'est, voilà, peut-être que je m'ennuierais si j'étais arrivé à destination.
Mais peut-être que c'est long quand on veut absolument un but. Et justement, ce que vous dites, moi je le prends un peu comme ça maintenant, dire oula, c'est très bien ce que ça m'apporte ici et maintenant. Donc,
mais c'est le but, ça n'existe pas le but. C'est dans un futur. Ce futur n'a aucune existence. La seule réalité, c'est ce qui se passe là dans l'instant présent. Pourquoi avoir peur de la mort? Parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais ça va se passer quand? Ça va se passer peut-être demain. Non, le 21.
Le 21.
Voilà. Mais si ça se passe le 21, mais c'est le 21. Nous ne sommes pas encore le 21. Donc ça n'a pas encore lieu. Par contre, si ça se produit, ça se produira dans l'instant présent. Ça ne peut pas se produire avant ou après. Ça ne peut se produire que dans l'instant présent, au moment où ça se produit. Comment et mon esprit au moment où ça se produit. C'est ça la pratique. Oui, les Tibétains font ça. Dans le calendrier tibétain. Si vous avez une date qui est néfaste au niveau astrologique, eh bien, on passe du 19 au 21 en sautant le 20. Parce que le 20 n'est pas. Oui, seulement il va falloir récupérer. Il va falloir récupérer. Alors si un mois après, il y a une journée qui est très positive, si c'est le 8 du mois de suivant, il y aura 7, 8, 8, 9.
Ça ne doit pas être pratique pour les rendez-vous.
Oui, c'est pas évident pour aller travailler.
C'est le 8, 1er ou 8, 2.
Bon, demain, je ne vais pas travailler. Ce n'est pas une bonne journée.
Voilà, c'est...
Le problème, c'est que si l'échéance du salaire arrive à cette date-là,
la première, voilà. Pas de salaire.
Voilà. Pour ce soir. Et on se dit à l'année prochaine, alors.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
O gewadi no tunda saga chenpo dum yune jowa chikyong malupa dei saragpa.
Merci.
Merci.